HDR, HDR, le mix,
le mix,
le mix de toutes les cultures.
Sur le pont des
arts. Dans Hate Love, son nouvel album, il chante l'amour toujours, mais quand il déchante.
Sur le pont des arts avec Nathalie Amard, du lundi au jeudi à 15h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents. Nous allons parler aujourd'hui de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. 131 décès suspects à ce jour et l'inquiétude à Goma notamment où des cas ont été enregistrés.
La riposte médicale expire à la fois du respect pour les équipes engagées sur le terrain, médecins, infirmiers, chercheurs, relais communautaires et de l'inquiétude passe aux limites de moyens disponibles dans certaines zones touchées.
Nous essaierons de comprendre notamment pourquoi il a fallu un mois entre la découverte des premiers cas et la confirmation qu'il s'agissait bien du virus Ebola. Toute une série de défaillances sur laquelle nous reviendrons dans Afrique Midi, à midi et demi, temps universel. On parle de cette épidémie également dans le journal, dans un instant. Au sommaire aussi, la situation au Moyen-Orient. Nouvelle déclaration contradictoire de Donald Trump. Alors que l'Iran menace d'ouvrir de nouveaux fronts en cas d'attaque américaine, l'Iran envisage également de taxer les opérateurs pour l'utilisation des câbles sous-marins installés dans le détroit d'Ormuz. C'est un peu technique, mais les enjeux sont très importants. On en parlera avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Cette situation, elle sera évoquée à Pékin, où le président chinois reçoit son homologue russe, Vladimir Poutine, en visite. Juste après Donald Trump, une coïncidence, dit-on, mais une coïncidence bienvenue. Analyse dans un quart d'heure avec notre correspondante à Moscou.
RFI Midi.
La guerre se poursuit également au Liban, où l'armée israélienne ordonne l'évacuation de 12 villages du sud du pays. Et l'armée israélienne poursuit également les destructions dans les territoires palestiniens, obligeant même parfois les habitants à démolir eux-mêmes leurs maisons, comme cet homme à Jérusalem.
Mes larmes coulaient. Je ne sais pas quoi dire. Il y a des choses que l'on ressent à l'intérieur de soi et qu'on ne peut pas exprimer. Pendant plusieurs jours, je n'arrivais pas à manger. On va voir ce qui va se passer. On est sur les nerfs. On est vraiment sur les nerfs. Je jure que je ne sais pas où on va aller.
Reportage à écouter à 12h25, temps universel. On ira aussi à Cuba, où une dizaine de personnalités supplémentaires sont désormais soumises à des sanctions américaines, et puis à Cannes, où le festival se poursuit. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Avec à la une, la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo.
Cette résurgence est à l'origine officiellement de 131 décès et 513 cas suspects en République démocratique du Congo. L'épicentre se situant en Ituri, province du Nord-Est, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. On rappelle aussi qu'il n'existe à ce jour aucun vaccin contre le variant Bundibugyo. Sur place au Congo, la situation est préoccupante au point que, dans un message publié sur X ce matin, le président Félix Tshisekedi qui a dit appeler la population au calme. L'ampleur et la rapidité avec laquelle Ebola se propage a poussé l'OMS à déclarer dès dimanche l'urgence sanitaire mondiale. Et cela sans attendre les recommandations de son comité d'experts. Jérémy Lanche, vous êtes en direct de Genève. C'est une première dans l'histoire de l'organisation.
Oui, le comité d'urgence doit se réunir dans la journée pour préciser les recommandations à prendre face à la souche Bundibugyo qui sévit actuellement et contre laquelle, vous l'avez dit, il n'existe aucun traitement ni vaccin. Mais ce n'est pas la seule raison qui a conduit le patron de l'OMS, le docteur Tedros, à déclencher l'alerte rouge dimanche dernier. Il l'a expliqué ce matin devant les États membres lors de l'Assemblée générale de l'OMS.
La deuxième raison, c'est que l'on a recensé des cas dans des zones urbaines. Troisièmement, du personnel de santé a été contaminé, ce qui indique qu'il y a une transmission dans ce contexte-là. Quatrièmement, il y a beaucoup de mouvements de population dans l'est de la RDC. Et vous savez ce que cela veut dire avec Ebola.
Oui, il y a près de 2 millions de déplacés rien qu'en Ituri et au Nord Kivu, beaucoup plus si on ajoute le Sud Kivu. Le Rwanda a annoncé qu'il fermait partiellement ses frontières avec la RDC. Elle resterait a priori ouverte pour le personnel de santé, dit l'OMS, qui assure que même sans vaccin ou traitement, on peut casser la chaîne de transmission du virus en utilisant notamment ce qu'on a appris des dernières épidémies d'Ebola, c'est la 17e en RDC. Le problème, c'est que les programmes humanitaires ont toujours été sous-financés dans le pays, encore plus depuis le désengagement américain. Pour le moment, l'ONU a reçu un tiers des près de 1,5 milliard de dollars qu'elle a demandé pour 2026.
Jérémy Lange, en direct de Genève, merci à vous. On a aussi appris ce matin que l'Allemagne avait accepté de soigner un ressortissant américain ayant contracté le virus Ebola en RDC. Les États-Unis avaient réclamé l'aide de Berlin.
Une intense activité diplomatique en ce moment à Pékin.
Oui, quelques jours après Donald Trump, c'est au tour de Vladimir Poutine. Arrivé aujourd'hui, le président russe sera reçu demain par Xi Jinping, son homologue présenté comme son bon ami de longue date, je cite. En plein conflit au Moyen-Orient, les présidents russes et chinois aborderont notamment la question de l'énergie. C'est à en croire Donald Trump, à la demande des monarchies arabes du Golfe, que la guerre entre l'Iran et les États-Unis n'a pas encore repris. Hier soir, le président américain a expliqué qu'il avait renoncé à une opération prévue ce mardi, affirmant répondre à une requête du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donald Trump a également assuré que des négociations sérieuses avec l'Iran avaient lieu actuellement. Guilhem Delteille, bonjour.
Bonjour Gilles.
Officiellement, Guilhem, les monarchies du Golfe n'ont pas commenté les propos de Donald Trump, mais on sait qu'il existe des divergences entre ses alliés, des Américains dans la région.
Oui, il y a ce mardi une intense activité diplomatique partagée. Les appels se sont multipliés dans la matinée entre les capitales de la région. Le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est ainsi entretenu avec ses homologues qatariens et émiriens, égyptiens également. Le chef de la diplomatie qatarienne a lui parlé avec les ministres jordaniens et turcs. Dans leur communiqué autour de ces échanges, Doha et Riyad ont souligné de leur côté leur attachement au processus diplomatique en cours. Pour le premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, une entente entre l'Iran et les États-Unis offrirait la possibilité de déboucher sur un accord durable capable d'empêcher une nouvelle escalade, mais juge que les efforts diplomatiques nécessitent plus de temps. De leur côté, en revanche, les Émirats arabes unis affichent ouvertement leur méfiance. Dans un message publié sur le réseau X, le conseiller diplomatique du président émirien, Anouar Gargash, dénonce ce mardi une confusion des rôles. Le rôle de la victime s'est mêlé à celui du médiateur et vice-versa, écrit-il et poursuit-il. L'ami s'est transformé en médiateur au lieu d'être un soutien solide et un appui. Une attaque en règle contre un processus qui risque, selon l'institution académique qu'il a créée, de conduire à un nouvel accord superficiel entre Washington et Téhéran.
Guilhem Delteille du service international, merci à vous. Nouvelles attaques russes en Ukraine. D'après les autorités régionales, au moins 4 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées dans une attaque de missiles et une autre de drones ont été touchées. Les régions de Tchernigiv et soumis dans le nord de l'Ukraine. Alors que Vladimir Poutine est parti à Pékin, l'armée russe entame 3 jours d'exercice nucléaire. 3 jours d'exercice et d'entraînement à l'arme nucléaire mobilisant des milliers d'hommes, indique le ministère russe de la Défense.
Shell, le géant pétrolier, tient aujourd'hui son assemblée générale à Londres.
Et comme d'autres acteurs du secteur, Shell a enregistré une forte hausse de ses profits depuis le début de l'année, près de 7 milliards de dollars de bénéfices, en grande partie en raison de l'envolée des prix du pétrole. Pour protester contre ses profits sur fond de guerre et surtout de dérèglement climatique, des militants de Fossil Free London ont manifesté ce matin devant le siège londonien de Shell. Reportage de notre correspondante Emeline Vin.
Pollueur scande la cinquantaine d'activistes qui ont bravé la pluie. Affublé d'un costume, Nigel boit du faux pétrole dans une coupe de champagne.
Je suis déguisé en actionnaire de Shell. Leur assemblée générale se tient aujourd'hui. Ils ont fait des milliards de dollars de profits avec la crise en Iran pendant que d'autres se font tuer.
Parmi les manifestants, des représentants de la communauté philippine qui poursuit Shell en justice. Cheryl dénonce l'impact de la présence de l'entreprise dans son pays.
Les Philippines sont l'un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. Avec ces corporations, des militaires sont déployés pour protéger les intérêts de Shell face aux peuples indigènes, aux agriculteurs.
Elle réclame aussi le paiement de dommages et intérêts pour compenser la pollution causée par Shell. Caroline Dennett a quitté l'entreprise il y a 4 ans.
Shell et consorts comme BP ont largement renoncé à leurs engagements de réduction des émissions. Ils ont les compétences techniques, les moyens financiers, mais ils s'entêtent à forer. C'est toujours drill, baby drill.
Le géant pétrolier investit environ 10% de ses profits seulement dans l'énergie renouvelable. Emeline Vin-Londres, RFI.
En France, l'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui un nouveau texte en réponse aux difficultés des agriculteurs, un projet de loi d'urgence agricole. Les débats s'annoncent longs et tendus sur les questions du stockage de l'eau, des pesticides ou bien encore de l'élevage. Le texte aborde de nombreux sujets, de la souveraineté alimentaire à la question du loup, en passant par celle du revenu des agriculteurs. De retour d'Alger, le ministre français de la Justice est revenu ce matin sur sa visite qui a scellé hier le rapprochement des deux pays. Gérald Darmanin s'est dit très rassuré par la façon dont le journaliste Christophe Gless est traité par l'Algérie où il est détenu. L'autre grand point abordé hier étant la coopération judiciaire entre les deux pays.
Plus que trois semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot.
Et le sélectionneur du Brésil a présenté hier soir la liste des 26 joueurs qui disputeront le tournoi américain. Surprise, Carlo Ancelotti a convoqué Neymar, la star brésilienne qui, deux ans et demi après, fait son grand retour avec la Seleção malgré un état de forme précaire. Eric Mamrut, bonjour.
Bonjour Gilles.
Les Brésiliens, eux, eh bien, sont enthousiastes.
Neymar Junior Santos.
Et oui, l'explosion de joie au moment où Carlo Ancelotti prononce le nom tant espéré. Neymar disputera bien aux États-Unis le quatrième mondial de sa carrière. Une clameur que l'on a entendue un petit peu partout dans le pays, car au Brésil, Neymar reste une star adulée, même s'il n'est plus que l'ombre du génial joueur qui a fait les beaux jours du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Car depuis 2023, l'attaquant de 34 ans lutte avec son physique, de multiples blessures, notamment au genou, lui ont fait perdre quasiment deux saisons entières. Mais depuis février, Neymar rejoue régulièrement avec son club brésilien de Santos, péniblement au début, les progrès se faisant peu à peu sentir. Même si son explosivité et son endurance ne sont plus là, ses fulgurances techniques et ses coups de génie, oui. Et c'est l'une des raisons de la convocation du meilleur buteur de l'histoire de la Seleção pour cette Coupe du Monde. Selon Carlo Ancelotti, sa condition physique s'est améliorée et il reste, je cite, un joueur important pour le Brésil. Sans garantir toutefois qu'il jouera, il peut jouer comme être sur le banc, a déclaré le patron d'une Seleção en quête de son glorieux passé. Sa cinquième et dernière étoile date de 2002. Et ses dernières sorties inquiètent. Mais avec la sélection de Neymar, la flamme auriverde s'est peut-être ranimée.
Les Brésiliens ont Neymar et nous avons Wembanyama en basket. Wemby a encore brillé avec les Spurs. Les Spurs de San Antonio qui ont remporté hier soir la première manche de la finale dans la conférence Ouest. San Antonio se déplaçait chez le champion titre Oklahoma City. Les deux équipes ont eu besoin de deux prolongations pour se départager. Le pivot français Victor Wembanyama a finalement fait la différence avec 41 points marqués. Il a grandement contribué au succès 122 à 115 des Spurs sur le parquet adverse. Voilà, bonne journée sur RFI. Tout de suite, en compagnie d'Anne Cantner.
Cocorico et merci, Wendy.
Radio HBR. Le mix.
Le mix.
Le mix.
Culture de toutes les cultures.
99.1 FM. Radio
HBR.
Il n'y a qu'à appuyer sur Play.
Keep on jumping, bumping, bass.
stomping. Crowds are hyping, butts are bumping. Adrenaline hype is how I am driven. This is the time to feel the rhythm.
Ne bougez plus.
Vous écoutez Radio HDR.
Radio HDR.
Le mix des cultures.
Mix de toutes les cultures.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Radio HDR 99.1 FM.
C'est sur le 99.1 FM.
Est-ce que c'est clair?
We keep gazing to the while the sun is going down, down.
Vous écoutez
Radio
HDR.
Le mix des cultures.
Le mix.
Le mix. Le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1
FM. 99.1
FM.
99.1 FM.
Radio HDR.
I've been waiting for too long.
Splash my pension in that wishing well and flunk it out in pennies. Childhood skipped to end, I'm trying to live my life like Nettie. So many blonde moves, so for Halloween I'm Benny. Brought my Ray Mac, my umbrella, a spare poncho and my wellies. Jellies detached from everything that gives me feeling. God went on a lunch break, now I'm tussling with the ceiling. The lead role in my box set and every season is grieving. So I guess it's just another night of me crying this evening. Hidden sprinklers in my pillowcase. My ego doesn't have an ounce of shame. Water faucet busting through my cheeks. I know that I'm a mess and I ain't trying to be discreet. Survival coping, live streaming my final moments. Knowing I can't swim my Uber in lifts to the widest ocean. Can't always know my issues at the party. For me to see the sun, I have to outlive this tsunami.
I've been waiting for too long.
les alarmes qui sonnent, le café, des années en file indienne pour rêver de ce corps qui part en fumée vers le nord. Ça m'évitera dans ton dos, dans ton dos. Borde-moi encore, serre-moi dans tes bras. Serre-moi de toi, serre-toi dans mes draps, serre-toi de moi. Dans ton dos.
Chemin.